Bonjour à tous et à toutes. Plusieurs d'entre nous sont sans doute en vacances ou vont peut-être partir en vacances. Je leur souhaite de passer de bons moments, mais de ne pas oublier que le Seigneur est aussi à côté d'eux et les garde et veille sur eux. Je suis un peu préoccupé par tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Vous aussi, sans doute, quand vous entendez tout ce qui se passe autour de nous, moi je suis bouleversé. Parce que je me dis, mais l'homme ne change pas. Il reste toujours le même dans son attitude, son comportement. Mais où es-tu, Seigneur ? Je sais qu'il est là. Mais c'est une interrogation qui peut venir du plus profond de notre être, et qui m'interpelle aujourd'hui. On va lire dans un psaume, au chapitre 85, quelques versets. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de ceci. À partir du verset 9, s'il vous plaît, si vous avez votre Bible. Ou parfois le téléphone qui remplace la Bible. Mais c'est bien, hein, après tout. C'est mieux de regarder la Bible avec le téléphone que de se préoccuper d'autre chose. Le verset 9. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Pourvu qu'il ne retombe pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Nous allons prier un instant. Seigneur, ta parole est la vérité et nous voulons la pratiquer, la vivre. Merci de cette parole que le psalmiste nous a donnée, inspirée par toi. Que ces paroles puissent rentrer dans nos cœurs, mais pas en sortir. Qu'elle demeure comme un sceau sur nos vies. Confions encore ce matin ce que nous allons échanger et nous te bénissons de ce que tu vas nous éclairer et nous encourager. Merci mon Dieu. Amen. Amen. Dieu parle de paix et qu'on entend encore aujourd'hui, si vous écoutez un peu la radio, toutes les choses qui sont dites, toutes les tentatives de rupture qui se créent dans le monde entier aujourd'hui, je suis bouleversé. D'unité, on ne fait que de la mosaïque. On casse les carreaux et on les rassemble. Toutes les choses aujourd'hui dans le monde est en train de s'auto-détruire, pourrait-on dire. Bien sûr, et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, on est un jour plus près du retour du Seigneur, aujourd'hui. Toute annonce, sa venue bientôt. Avec les bouleversements qui se passent tout autour de nous, dans le quotidien de notre vie. Notre Dieu nous parle de paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix. Est-ce vrai pour nous? Je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Jésus, en arrivant dans la chambre haute, après sa résurrection, il apparaît et dit « Que la paix soit avec vous. » Quelle est cette paix? En quoi consiste-t-elle pour nous? Est-ce que c'est des traités, des écrits, des mots qu'on prononce, ou bien une réalité profonde dans le fond de notre cœur? Je pense à une chose qui est importante aujourd'hui. Est-ce que nous sommes en paix avec nous-mêmes? Je retrouvais un texte, c'est une prière de Spurgeon. Je l'étais déjà lu ici, mais je vais la relire encore. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, au moins il y aura quelques-uns de plus sans avoir entendu cette prière. Vous savez, Spurgeon, il s'est converti très jeune, 15 ans. Mais c'était un garçon tourmenté. Tourmenté à un point qu'il cherchait la vérité et cette vérité ne lui apparaissait jamais. Il connaissait l'Écriture, son père était pasteur, il entendait les échanges que son père avait avec des gens qui venaient à la maison, il était au courant de tout, il savait tout, mais il se regardait lui-même comme tellement impur, sale, qu'il ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il était tourmenté au fond de lui-même. Et ce jour, un jour d'hiver, il est allé, parce qu'il cherchait partout, à entendre vraiment la parole de Dieu, ce que Dieu voulait donner, lui donner à lui, personnellement. Et il est allé dans un village, il avait entendu dire qu'un prédicateur allait venir, et il va donc, à pied bien sûr, à cette époque, 1850, dans la neige, il arrive au village, pas de prédicateur. Pas de prédicateur. Mais qui va parler? Les gens étaient là, ils attendaient, et personne ne venait. Alors il y a un qui s'est levé, qui a décidé de... Il faut bien qu'on commence, qu'on dise quelque chose. Et puis il a pris un texte, je crois que c'est dans Jérémie ou Zéaïe, mais en tout cas, il lui a dit, si tu tournes les regards vers lui, tu seras sauvé. Et il voit ce garçon qui est là, il dit, jeune homme, si tu fais cela, si tu tournes vraiment vers Jésus, alors tu seras sauvé. C'était le bouleversement le plus total dans sa vie. Parce qu'il cherchait dans l'Écriture, mais il ne cherchait pas à regarder à Jésus. Il ne cherchait pas sa présence. C'était le texte qui était là, mais lui, Jésus lui-même, présent, se tournait les yeux vers lui. C'était une révélation qu'il avait besoin de connaître véritablement. Et là, tout a été changé dans sa vie. Et il a écrit ce 1er février 1850, plein d'hiver, il a écrit ceci. « Ô Dieu, grand et insondable, qui connaît mon cœur et éprouve mes voies, dans une humble dépendance du soutien de ton esprit, je m'abandonne à toi, entièrement, en me donnant à toi comme sacrifice raisonnable. Je te rends ce qui t'appartient. Je veux être à toi, pour toujours, sans réserve, perpétuellement, pendant que je suis sur la terre. Je veux te servir et puis je me réjouir en toi et te louer pour toujours. Amen. » La prière d'engagement, il s'est donné totalement. Et c'était sa vie. Il est mort relativement jeune, dans les 50 et quelques années, 52 je crois, mais il a eu un ministère puissant. À partir de l'âge de 15 ans, il a commencé à servir, et à fond, pour devenir un responsable important dans l'Église en Angleterre. 19 ans, il était le pasteur de la plus grande Église de Londres. 19 ans. Mais il y avait un appel sur sa vie, il y avait une force puissante qui était descendue sur lui par le Saint-Esprit. La paix qu'il n'avait pas au fond de lui-même, il a découverte qu'elle se trouvait en Jésus-Christ. Et qu'il pouvait vivre quelque chose de puissant et de fort dans un monde douloureux, également, à cette époque. La vie changée, la vie transformée, une vie nouvelle, véritablement nouvelle, où les problèmes ne sont plus essentiels. C'est la solution qui est essentielle. Et la solution, c'était vraiment s'appuyer sur Jésus lui-même. Et se donner totalement à lui, toute sa vie, perpétuellement, dit-il. Même sur le ciel, la vie éternelle. Toute sa vie donnée à Christ. Il s'est usé, on peut dire, au service de Dieu. Mais c'était vraiment un feu qui était là. Un feu qui était entré dans sa vie et que je voudrais encore entrer. Bon, j'ai du feu, bien sûr. Mais j'ai un peu plus de feu peut-être. Et pour vous aussi, vous tous, que vous puissiez être animés de ce feu pour l'annonce de l'Évangile, pour la proclamation de ce que Dieu a fait dans nos vies, comment il nous a transformés, comment il nous a donné par grâce une vie nouvelle. La paix avec nous-mêmes. Être en paix avec soi-même. Vous savez, le diable vient souvent pour vous culpabiliser, pour nous culpabiliser. Il nous rappelle notre passé. Si ici quelqu'un dit « Moi, jamais le diable m'a rappelé mon passé », c'est un menteur. Vous voyez, on voit toujours et toujours des choses qui reviennent du passé. Des choses que vous avez commises. Et il vous les donne des grands détails. Ce n'est pas des petits détails. C'est des choses énormes qu'il vous met devant les yeux pour vous abattre, pour vous détruire, pour vous déstabiliser, pour dire à quoi ça sert tout ça. Mais nous avons reçu Christ dans notre vie, qui a changé notre vision des choses. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, dit Paul aux Corinthiens. Toutes choses anciennes sont passées. Elles sont passées, oui. Mais le souvenir peut être là. Mais on n'a pas à s'attacher à ce souvenir, à rester collé à ce souvenir. C'est comme une sangsue qui vous dévore, comme un cancer intérieur. Et cette paix, Dieu nous la donne. Il nous permet d'avoir la paix par rapport à notre passé, à notre culpabilité, aux choses qu'on a pu faire, les actes qu'on a pu commettre. Parfois même, c'est impossible de pouvoir demander pardon à la personne parce qu'elle n'est plus là. Elle est décédée. Comment lui demander pardon si vous êtes converti après son décès? Mais Dieu vous accorde ce pardon. Vous êtes libre. L'esclavage est terminé. La puissance de Dieu est entrée dans notre vie et nous sommes libres. Mais on est quand même conscient. On sait bien qu'on n'est pas parfait. Heureusement d'ailleurs. Et qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et j'en ai encore à apprendre. Paix intérieure. Et ça, c'est lié finalement aussi au fruit de l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu entre en nous, ce n'est pas simplement les dons qu'il nous offre, qu'il nous donne, mais c'est aussi le fruit. Et je crois que le fruit, d'abord, est important. Le reste suit. Cette paix, cette joie, c'est le Saint-Esprit qui nous met dans notre cœur, dans toutes les circonstances de notre vie. Et le trouble qui peut venir dans notre vie concernant notre avenir, je dis, Seigneur, tu connais mon avenir, tu t'en occupes. Je ne vais pas me soucier de ce que je ferai dans 6 mois, dans 1 an. Ma vie peut-être va être raccourcie. Je ne sais pas où je serai dans 1 an. Mais je suis là aujourd'hui. On est là aujourd'hui pour honorer et glorifier Dieu. Et demain aussi, et après-demain aussi. Chaque jour suffit sa peine. Et nous avons besoin de vivre cette dimension de paix pour l'instant que l'on passe. L'instant que Dieu nous permet de vivre. Je parlais avec Nicolas, tiens, dimanche dernier. Et puis Betty, ça y est, vous êtes en paix avec votre voleur ?
On l'a presque retrouvé.
Ah ! Ah ! Non, je plaisante parce que j'ai un magasin à Rennes, et puis il y a des gens qui sont entrés dans le magasin, 2 ou 3, et il y a pas deux occupés la vendeuse, madame, et puis un autre est parti en piquant un vêtement. Bon, ça arrive. Mais on peut être en colère, hein ? Mais la paix que Dieu donne, la paix que Dieu donne va au-delà de cela. Et nous avons besoin de vivre cette dimension de richesse intérieure que Dieu nous accorde à chaque instant. Dieu dit à son peuple, je vous donnerai ma paix. J'ai des projets, le bonheur est... Dans quel livre ça se trouve ? Qui connaît le lien ? Allez, allez, allez. 29, 11, non, c'est ça ? On va le lire. Car je connais, dit le Seigneur, les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Des projets de paix. Pas des projets de victoire, de vraie grande victoire, etc. Non, des projets de paix, tout simple. Quelles que soient vos circonstances dans lesquelles vous vivez, Dieu veut vous donner la paix. Même si vos projets ne réussissent pas. Assez grave. Si vos projets n'aboutissent pas. Mais il est écrit dans les Proverbes aussi qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Réalisons cela. Réalisons cela. Il nous dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Job, ses projets, Jean-Luc en a parlé dimanche, Job, ses projets, il n'avait pas beaucoup, hein. Il en avait avant, et d'un seul coup, tout a disparu. Dieu a permis, parce que le diable était en train aussi de titiller le Seigneur lui-même. Faire un pari avec Dieu. Oh là, est-ce que vous avez fait des paris avec Dieu? Si, il y en a un homme, c'est Jacob. Quand il a combattu, quand il a vu l'échelle de cette échelle avec les anges qui descendaient, oh, ce lieu était un lieu saint et je ne le savais pas. Dieu était là. Il dit, si je reviens, je te donnerai tout. 24 ans. Puis je reviens. Patience à Dieu. Il n'y a peut-être pas la paix dans le cœur de Jacob. Il avait peur aussi de son frère, Ésaü. Et finalement, Dieu a permis qu'il se réconcilie. Parce qu'il a accepté de recevoir la paix de Dieu malgré les événements douloureux. Dieu dit à son peuple, j'ai pour vous des projets de bonheur, non, de paix. Paix d'abord. Être apaisé dans toutes les décisions que nous prenons. Paix entre nous. Paix avec les autres. C'est pas facile, ça, aujourd'hui, dans le monde que nous vivons. Mais d'abord, est-ce que nous sommes vraiment en paix avec notre Dieu ? Est-ce que nous sommes encore des rebelles? Ou est-ce que la tentation de vous rebeller est encore présente dans vos cœurs? Parce qu'entre la rébellion et la tentation, il y a une différence. Une tentation, on peut résister. On est capable, non? Vous craquez pour des choses dans votre vie? Vous rentrez dans un magasin et puis il y a une queue. Ah ! Et vous craquez. C'est vrai pour aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs. Hein. Ne faisons pas de séquisme. On peut résister. On peut résister. Peut-être que la souffrance était telle dans votre vie que vous en voulez à Dieu. Je me disais l'autre jour. Il y a un texte que Jésus a, des paroles que Jésus, il est préférable d'entrer boiteux, aveugle ou manchot dans le royaume des cieux que tout entier dans la géhenne. Alors je me suis fait couturer un peu partout. Je lui ai dit, il y a des morceaux qui s'en vont d'ici et là. Donc je ne rentrerai pas entier, hein. Mais je serai. Je crois et je dis proclamer entrer dans le royaume de Dieu. Parce que je l'aime, que je veux l'honorer, je veux le glorifier, malgré tout, même malgré les épreuves qu'on a pu traverser, Marie-Thérèse et moi. On a persévéré. Et d'ailleurs, un prédicateur que je connais bien, peut-être qu'il viendra nous voir, Jean-Marie Panier, qui disait un mot, percez et vous verrez. Persévérer. On a besoin de persévérer, dans l'épreuve, dans la difficulté, et de ne pas en vouloir à Dieu. Parce qu'il permet l'épreuve pour nous faire grandir. On peut être en difficulté physique, mais Dieu nous garde. Je me rappelle toujours comment elle s'appelle, la jeune femme qui s'est fait baptiser, qui était en fauteuil, René Vanessa, qui aime le Seigneur, et pourtant qui se trouve dans une situation physique difficile. Mais ce qui importe, ce n'est pas notre physique, c'est notre cœur. Le cœur que nous donnons à Christ. Dieu veut nous réconcilier avec lui, par Jésus. Et je pense que pour la plupart d'entre nous, cela s'est fait déjà. Si ce n'est pas le cas, aujourd'hui, c'est une occasion qui vous est donnée de pouvoir vous réconcilier avec Dieu. Paix entre nous. Peut-être j'aborde des sujets un peu difficiles. Est-ce que nous sommes en paix les uns avec les autres ? L'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Si nous avons reçu le Saint-Esprit en nous, il est plus facile, je crois, de se réconcilier que si cela n'est pas le cas. Mais c'est difficile. Je le dis même personnellement pour moi. L'occasion aussi d'en vouloir à des personnes qui m'ont blessé, qui m'ont rejeté, qui m'ont repoussé, qui m'ont accusé. Je le dis. C'est difficile de pouvoir pardonner. C'est difficile de pouvoir reconnaître que parfois, ce qui a pu être dit par ces personnes est vrai. Parce que dans des accusations, il y a du vrai et du faux. Reconnaître qu'on a pu se tromper. Reconnaître qu'on a fait une erreur soi-même. Et qu'on a pu aussi, sans le savoir, blesser quelqu'un. David disait, Seigneur, pardonne-moi même les péchés que je ne connais pas, les fautes que j'ai pu commettre et que j'ignore. Je crois que ça demande réflexion à chacun de nous. Parce que nous sommes dans la chair, oui, mais la chair est faible. Mais que nous avons besoin, les uns et les autres, de réaliser que cette faiblesse, elle est toujours là, malgré tout. Et que nous avons besoin de faire un retour sur nous-mêmes et de dire, Seigneur, oui, que nous soyons en paix les uns avec les autres. Quand nous regardons les églises aujourd'hui, nous voyons toutes ces dénominations, tous ces groupes qui peuvent exister ici et là, et qui prient et qui aiment le Seigneur et qui veulent l'honorer. Et comment ils sont parfois divisés parce qu'elles ne se sont un jour séparés pour des raisons de doctrine, parfois, ou de doctrine, ou d'interprétation de la parole. Et pourtant, ils aiment Christ. On leur dit, qu'importe si Christ est annoncé malgré tout, parce qu'il y a eu la réaction des chrétiens, ils disaient, mais ceux-là, ils annoncent, ils parlent de toi, ils ne sont pas avec nous. Il a dit qu'importe, pourvu que la parole s'annonçait et que des gens se tournent vers Christ. Vers Christ, non pas vers des hommes, non pas vers des individus, non pas vers des gourous, on pourrait dire, mais vers Christ lui-même. Que le regard soit tourné non pas vers les hommes, vers Christ. Parce que l'idolâtrie peut régner au milieu de nous. Et nous avons veillé à cela. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, je voudrais vous lire quelques versets. Chapitre 4, C'est pas grave. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Chapitre 4, verset 1. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen.
Amen.
Quand on voit dans l'Épître aux Corinthiens, on parle qu'il y avait des clans dans l'Église. L'un était de Paul, l'autre de Céphas, l'autre de Christ, l'autre dans la même assemblée. On se dit, mais où va-t-on à cette époque? Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Je me réjouis ici que nous disons, c'est l'Église de la Bonne Nouvelle. Parce qu'il y a l'Église de un tel, il y a l'Église de monsieur autre, etc., etc. Mais l'Église de la Bonne Nouvelle, celle que l'Évangile nous donne, la véritable Évangile, le véritable Évangile, cet Évangile de paix que Dieu veut nous donner, que nous puissions vivre cette dimension-là, par l'Esprit de Dieu habitant en nous. Cherchons cette unité, frères et sœurs. Alors, la paix sera mise au milieu de nous. Mais allons-nous retomber dans la folie? Comme disait le texte tout à l'heure que j'ai lu, dans ce psaume, allons-nous retomber dans la folie? Que Dieu nous garde. Je lisais ce matin, parce que je reçois OS France même le dimanche matin, j'ai lu ce matin un peu, un article qui était d'une des fondatrices, Madame Hutin, fondatrice du journal, il y a déjà un certain nombre d'années, au moins 80 ans, peut-être 70 ans. Elle disait, les religions sont faites, sont là pour annoncer la paix, le pardon, la compassion, la miséricorde. Mais nous voyons aujourd'hui que les religions annoncent non, pas cette paix, mais la guerre. La guerre au milieu de ce monde aujourd'hui tellement déchiré. On parle souvent de l'islam, mais moi je vois le bouddhisme, je vois l'hindouisme, je vois le christianisme aussi. Mais nous devons annoncer la paix. Les conversions se sont faites pendant des siècles à coups d'épée, d'armes. On a obligé des peuples à se convertir à la religion du prince. Les premières années de l'Église, ça a été la conversion par la conviction et par la démonstration. La démonstration de ce que Dieu était vivant et qu'il pouvait changer toutes les choses autour de nous. Et c'est comme ça que l'Évangile s'est développé surtout le pourtour méditerranéen comme un feu de brousse. Pas avec des armes. Après, on peut dire à partir de monsieur, pas du monsieur, mais de l'empereur Constantin, où l'Église est devenue d'État, alors là, de persécutrice, elle est devenue, non, de persécutée, elle est devenue persécutrice. Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs, de vivre dans cette dimension-là et d'être des hommes de paix, des femmes de paix, qui annoncent ce que nous vivons, ce que nous croyons, sans en imposer aux autres. Nous fréquentons un couple qui habite sur Passé, ça fait plusieurs années, ça fait moins de 3 ans. On n'a jamais quasiment forcé la dose, même pas parlé pour essayer de convaincre. Ils savaient notre position, point. Et puis l'autre jour, la semaine dernière. Miracle. On a pu aborder sans forme vraiment le problème de la foi, de la guérison divine et de la puissance de Dieu. Et là, c'est le mari qui était lui totalement opposé à tout ce qui était religieux, vu qu'il disait les pasteurs et tout ça, bon, je n'en fais pas. Il était scotché, il nous a suivis, il est venu avec nous jusqu'à la voiture, il nous a accompagnés. Et puis il parlait encore. Ça a touché. On n'a pas forcé, on n'a pas imposé, on a partagé. Et cette paix qui était là, Marie-Thérèse s'était mariée, hein, avec Jean-Michel. Elle dit oui. Mais on a vécu un moment auquel on ne pouvait pas imaginer que c'était possible. On n'a pas forcé. On n'a pas forcé. On a simplement eu l'opportunité de mettre le pied dans la porte et l'empêcher de se fermer. Oui, c'est vrai, la porte s'ouvre à un moment donné, mais il ne faut pas qu'on la laisse se fermer. Et on a pu parler, et les choses ont été quand même bien reçues. On va revenir à Charles, mais doucement, avec amour. Avec amour. Parce que Dieu nous demande d'être ces hommes et de femmes de paix et d'amour pour annoncer à tous et à toutes ce qu'est vraiment l'Évangile. Le monde se voile la face aujourd'hui. On parle de paix partout. Le monde se voile la face, mais ils veulent la paix à leur manière, en imposant aux autres. Tous les traités de paix qui ont été signés depuis des siècles ont tous été balayés. À un moment donné, pour en créer un autre, parce que le conquérant, le vainqueur du coup, et ensuite il devient le vaincu. Nous, nous sommes des vainqueurs, mais pas des vaincus. Dieu nous donne une victoire qui n'est pas la victoire que le monde voit, mais une victoire sur les cœurs, sur les consciences, et donne à chacun et à chacune de pouvoir choisir. Dieu nous a donné le libre arbitre. On n'impose rien. On peut convaincre. On peut aussi se retirer. On en a vu plusieurs. Quand je regarde tous ceux que j'ai pu rencontrer depuis des années, qui se sont donnés à Christ un jour et qui ont disparu, qui ont tout abandonné. Mais comme dit Jésus, je ne mets pas dehors celui qui vient à moi. La porte n'est pas fermée. Et si nous gardons la foi, alors tout est possible. Mais nous sommes souvent incrédules. Ah oui. Jésus, quand il était apparu aux disciples dans la chambre haute, il a dit, que la paix soit avec vous. Qui était là? Il y avait Pierre, qui l'avait renié. La paix dans le cœur de Pierre. Plus tard, oui, quelques temps plus tard, m'aimes-tu? A dit Jésus. Tu sais que je t'aime. Et la paix est venue vraiment. Toute la culpabilité qui était dans le cœur de Pierre a disparu. Ce que je disais au début. Cette culpabilité qui est là. La paix dans le cœur de Jean, celui qui était au pied de la croix, il aurait pu être dans la révolte. De voir son maître, celui qu'il aimait, pendu à la croix, souffrant. La paix dans le cœur de Marie, la mère de Jésus, et des femmes qui étaient là. La paix dans le cœur des autres apôtres qui avaient disparu. La paix dans le cœur de Thomas, le douteur. Si je ne vois Marc tes clous, Si j'y mets la main, je ne croirai pas. La paix dans le cœur des disciples d'Emmaüs. Formidable, le passage où ils sont dans la tristesse et dans l'angoisse et dans qu'est-ce qui va arriver. Et ils retournent vers Jérusalem avec la joie dans le cœur et la paix. La joie de tous ceux qui... Et la paix dans le cœur de tous ceux qui ont vu Jésus ressuscité. Il y a un chant qui dit ceci. « Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Mais tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il ne conduit mes pas. » C'est merveilleux, ce chant. « Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il ne conduit mes pas. » Quelle victoire merveilleuse. Nous avons les uns et les autres pour avoir rencontré Jésus et de l'avoir suivi. Parce que plusieurs ont dit, et Jésus l'a dit, « Suis-moi, oh, il faut que j'aille enterrer mon père. Oh, il faut que j'aille ici et là. » C'est tout de suite, comme Spurgeon l'a fait. Il a décidé et il a marché. Et sa vie a été changée. Que cette paix que Dieu veut vous donner, frères et sœurs, rayonne dans vos cœurs. Et que votre marche en avant soit encore plus vaillante. Vous savez, on avait dit au début d'année, je reviens sur le verset qui avait été dit au début d'année, « Défrichez-vous un champ nouveau. » Moi, je dis, c'est fini. Il n'y a plus besoin de défricher. On y va. On y va. On avance. Il y a tant d'âmes à gagner. Il y a tant d'hommes et de femmes qui ont besoin de connaître Jésus. Dans leur souffrance d'aujourd'hui, dans leur angoisse, dans les difficultés qu'ils traversent, de rencontrer Jésus qui lui tend la main. Je me rappelle toujours d'avoir vu cette image dans le film Ben-Hur, vous connaissez, où Ben-Hur est enchaîné. Il est là, il est en train de marche forcée. Et il y a Jésus qui s'approche de lui. On ne le voit pas, mais on voit le regard de Ben-Hur et qui lui apporte de l'eau. Et le soldat, le légionnaire, qui s'approche avec un regard rempli de haine et de violence, prêt à le frapper. Et quand Jésus tourne ses yeux vers lui, on ne le voit pas Jésus en plus. On voit cet homme qui change de... Il pâlit, il recule, il baisse la tête et il s'en va. Jésus était auprès de celui qui n'avait rien, plus rien, et lui donnait à boire. Et celui qui était opposé, et bien il a reculé. C'est comme le diable. Recule, parce que Jésus est avec nous et nous garde dans la difficulté et dans l'épreuve et peut dire « Satan, hors de moi ». Si on lui résiste, il s'enfuira loin de nous. Alors que cela soit vrai pour chacun de vous, Seigneur, et que le Seigneur vous donne toutes les forces dont vous avez besoin. Nous allons prier. Merci pour ce matin. Merci pour ce que tu lui as accordé à mes frères et mes sœurs. Dans leurs difficultés personnelles, dans ce qu'ils vivent dans l'instant présent et qui les tourmente et qui est destructeur. Merci Seigneur de les fortifier maintenant et de leur donner les forces dont ils ont ou elles ont besoin pour prendre le chemin que tu as mis devant eux. Merci mon Dieu. Merci que ce matin tu as pu encourager et fortifier plusieurs d'entre nous. Que tu as pu donner véritable espérance, des projets de paix et non de malheur. Merci et sois béni, Seigneur. Amen. Amen.